enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le titre du message d'aujourd'hui est « Que faites-vous d'extraordinaire ?» Et c'est dans le contexte de la parole de Jean, dans l'épître de Jean, il nous est dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Nous sommes à l'image de Dieu. Ça, on le sait, on a été créés à l'image de Dieu. Mais quand vous voyez beaucoup d'hommes et de femmes autour de vous, vous n'avez pas toujours l'impression qu'ils sont à l'image de Dieu. Parce qu'ils ont été pervertis, on pourrait dire littéralement défigurés par le péché. Ils ne sont plus à l'image de Dieu. Et chez les chrétiens, il y en a aussi certains qui ne sont pas encore à l'image de Dieu. Quand on les regarde, on ne voit pas une image de Dieu. Au travers de leur comportement, de leurs paroles, ou même de leur apparence, on ne voit pas l'image de Dieu en eux. Et nous sommes appelés à être extraordinaires. J'en suis convaincu. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien on va regarder dans la Bible, Matthieu 5, 47. J'ai eu cette révélation ce matin, non pas par rapport au message, mais des applications qu'il pouvait avoir dans ma vie personnelle. Je vais vous expliquer dans un instant. Matthieu 5, 47 dit « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? » Il y a des gens, saluer, ça veut dire, dans un langage plus simple, on peut dire bonjour. Il y a des gens qui ne disent bonjour qu'à ceux qui leur disent bonjour. Si tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. Si tu me dis bonjour, je te réponds, si je suis poli. Et des fois, il y en a qui ne répondent même pas la salutation. Et ici, il nous est dit que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien de saluer quelqu'un qui le salue aussi. Saluer quelqu'un avec qui on est bien. Parce que les païens font la même chose. Si vous êtes fâché avec votre voisin, vous ne allez plus vous saluer. Les païens font cela. Et les chrétiens font des fois la même chose. Mais nous sommes appelés par Jésus à faire quoi ? Quelque chose d'extraordinaire. C'est sous-entendu, vous comprenez ? C'est sous-entendu et c'est dans le texte. Que faites-vous d'extraordinaire ? Qu'est-ce qui est sous-entendu ? Sous-entendu, ça veut dire que ce n'est pas vraiment exprimé, mais on comprend d'après le sens que c'est exactement ce qu'il attend. Il attend de nous que nous soyons différents, que nous fassions quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que les autres ne font pas d'habitude. C'est ça que ça veut dire. Extraordinaire, ça veut dire qui sort de l'ordinaire. Extra, ça veut dire en dehors. Extraire quelque chose. Les informaticiens pouvaient faire des extractions de fichiers. Les extractions, il y a eu toutes sortes de choses qu'on a toujours fait. Des fois, on a des produits, on lit extrait de plantes, extrait de fruits ou extrait de je ne sais quoi. Ça veut dire c'est sorti de extraordinaire. C'est sorti. Extraction, oui, dentaire, on sort la dent. Alors, rappelez-vous de ça. Si vous vous rappelez juste ça ce matin, ça sera déjà pas mal. Jésus attend de nous quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais même pas seulement Jésus, mais le monde autour de nous. Romains 8 nous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu, on les voit tels qu'ils sont. Les fils de Dieu et les filles de Dieu, c'est nous qui sommes arrivés dans un stade où nous représentons réellement notre Père céleste. Quand Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », ça veut dire que quand les gens vous voient, il voit quelque chose d'extraordinaire. Êtes-vous extraordinaire? En réalité, beaucoup de gens cherchent à être extraordinaires. Et même si vous pensez maintenant, mais moi je préfère, je suis timide, je préfère être discret, qu'on ne s'occupe pas tellement de moi, en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Vous voulez qu'on vous remarque. Les jeunes filles veulent qu'on les remarque. Sinon, elles ne prendraient pas tellement de soin à leur apparence. Non, c'est vrai. Et après, c'est les dames. Et les garçons, souvent, ce n'est pas tellement par leur apparence dans le sens de coquetterie, mais il y a d'autres choses. Ils veulent être remarqués. Personne n'aime être un simple pion obscur dont personne ne s'occupe. On ne veut être remarqué tout simplement parce qu'on a un besoin profond d'être aimé. Alors on veut être remarqué. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes extraordinaires. Déjà, nous sommes extraordinaires de naissance. Nous étions nés dans ce monde et on nous a extraits du monde pour nous faire naître dans le royaume de Dieu. Et nous sommes maintenant extraordinaires. Et pour cette opération d'extraction, le Saint-Esprit nous a donné une nouvelle nature, et avec cette nouvelle nature que nous avons, il y a des choses qui y sont attachées, des choses qui viennent de Dieu. Par exemple, nous avons reçu une sagesse extraordinaire. Ça, c'est la première chose extraordinaire que nous avons, une sagesse. Tout le monde a besoin de la sagesse, savoir quelles sont les décisions que je vais prendre dans la vie. Eh bien, nous avons pas seulement une sagesse, mais nous avons une sagesse extraordinaire. Daniel 5, 14, voilà ce qu'il est dit. « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Vous aimeriez qu'on dise ça de vous? Soyez honnête. Vous préfériez qu'on dise celui-là, son avis ne m'intéresse pas vraiment, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une bêtise. Non, nous aimerions que les gens remarquent que nous avons en nous l'Esprit de Dieu et que quand nous parlons, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais que c'est vraiment quelque chose qui fera une différence. Une définition aussi de extraordinaire, ça peut être de qualité supérieure. Alors j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu le passage de 1 Corinthiens. On va ouvrir à 1 Corinthiens 2. On va lire 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si on lit superficiellement, beaucoup de gens vont dire, vous voyez, ça veut dire que l'Évangile n'aura un impact, non pas seulement si on le prêche avec des mots, mais s'il y a des miracles, s'il y a des signes, des choses qui frappent les yeux et qui vont ébranler les gens. Je ne suis pas du tout contre les signes, les prodiges et les miracles, et je veux qu'on en ait davantage. Mais ce n'est pas ça qui est dit ici. Ce qui est dit ici est que l'apôtre Paul compare ses paroles avec les paroles d'autres personnes. Et de quelles personnes? Eh bien, en particulier de ceux qu'on appelait les Grecs. Le monde grec était la pensée dominante de l'époque. Et dans 1 Corinthiens, juste avant, qu'est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je sais que c'est un peu beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez quand même retenu l'essentiel de ce passage. L'essentiel, c'est que nous étions dans un monde grec, et lorsque Paul arrive à Athènes, qu'est-ce que nous avions là? Nous avions des gens qui, il nous est dit dans la Bible, ne passaient leur temps que à dire et écouter des discours. Pourquoi? C'était un groupe de personnes qui avaient leurs esclaves, qui faisaient tout le travail, et eux, ils s'occupaient alors de philosopher, de raisonner et de parler toute la journée. Alors ce que Paul veut dire ici, ce que je vous annonce, c'est une sagesse de Dieu, mais qui n'est pas comparable avec cette sagesse que par exemple on trouve chez les Grecs et chez les Athéniens. Ce n'est pas ce genre de sagesse. Et d'ailleurs, avec ce genre de sagesse et de discours, jamais personne ne trouvera Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il dit que lorsque moi je prêche l'évangile, c'est une prédication qui est accompagnée de la puissance de l'Esprit. Quand je prêche Christ crucifié, alors le Saint-Esprit utilise ces mots et convainc les gens. Et ils peuvent croire à cette soi-disant folie. Parce que lorsque Paul a parlé de résurrection des morts, les Athéniens ont dit, bon, ben, ça va, hein, jusqu'à présent, on pouvait t'écouter, hein, mais là, c'est trop, ça. On t'entendra là-dessus une autre fois, ils ont dit. C'était encore une façon polie de le faire. Et à un autre moment, il parle aussi de la résurrection des morts. Et il y avait le gouverneur qui s'appelait Festus. Il dit, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et dans les Actes des Apôtres. Et dès qu'il parle de résurrection des morts, ça c'est trop. On peut philosopher, on peut discuter religion, mais là où vient la différence, c'est la résurrection des morts. Parce que vous ne pouvez raisonner personne avec la sagesse des discours. Vous avez un cadavre devant vous, vous lui direz, écoute, tu ferais bien de te lever. Ce serait bien que tu vives encore un moment, tu serais avec ta famille. Et, vous voyez, ça ne sert à rien. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez dire « Lève-toi au nom de Jésus » et que le cadavre reprend vie, alors là, vous avez une démonstration d'esprit et de puissance. Mais de la même façon, si vous avez des gens qui sont morts spirituellement et que vous pouvez leur annoncer l'évangile et qu'ils y croient, ils reprennent vie, la vie de Dieu vient en eux. Donc, nous pouvons nous réjouir d'avoir une sagesse extraordinaire. Vous avez une sagesse extraordinaire parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes donc déjà sur la route, la bonne route telle que Jésus l'attend de vous pour faire quelque chose d'extraordinaire. Un peu plus loin, d'ailleurs ça rajoute encore à ce que je suis en train de dire, dans 1 Corinthiens 2, toujours, verset 6, cette fois-ci, il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous révèle par l'Esprit la sagesse de Dieu. Lorsque Jésus était sur les routes d'Israël, en Galilée, autour de Jérusalem, il prêchait Il annonçait la parole de Dieu. Et à un moment, quand ils ont voulu l'arrêter, les huissiers qui étaient envoyés pour l'arrêter sont revenus et ont dit non, on n'a pas pu. On n'a pas pu. On était devant lui et on a entendu ce qu'il a dit. Et leur expression, c'était dans Jean 7, 47, vous trouverez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ces paroles étaient extraordinaires. Et plus loin, on voit que pour les disciples de Jésus, c'est la même chose. Pour Étienne, il nous a dit, il parlait avec une telle sagesse, des mots de sagesse et de grâce sortaient de sa bouche, au point qu'il ne pouvait pas y résister. Les autres qui étaient en face, ils ne pouvaient pas discuter. Ce n'était pas seulement une discussion à un coup de versets bibliques, comme on dit, c'était plus que ça. Vous aviez d'un côté les paroles qui viennent directement de Dieu, et de l'autre côté, vous aviez des discours d'hommes. Alors, qui l'emporte, c'est facile à dire. Un autre aspect intéressant encore sur la sagesse extraordinaire, dans Marc 1, au verset 21 à 28, voilà ce qui se passe. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les gens ont fait une différence entre deux types d'enseignement. Ceux qui enseignent avec autorité et ceux qui enseignent comme les scribes avaient l'habitude. Ils commentaient les Écritures, mais ils ne pouvaient pas vraiment prêcher la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Il y a une grande recrudescence actuellement, ou recrudescence, en fait, un développement de la façon dont on montre maintenant les activités démoniaques, surtout à la télévision, beaucoup de feuilletons et de films parlent ouvertement maintenant des démons et de la façon dont ça se passe. Mais nous savons qu'il y a une seule façon de réellement chasser les démons, et c'est par la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Jésus avait dit, si je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je le fais. Et donc, toutes ces choses que les uns et les autres peuvent regarder ne sont que des fables et n'ont aucune réalité. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. C'était une nouvelle doctrine, mais pas juste une idée. C'était pas juste une philosophie ou une pensée ou une religion. C'était une doctrine, mais qui était accompagnée de puissance. C'était la sagesse extraordinaire. Il y a une autre chose extraordinaire que nous pouvons avoir. C'est une force extraordinaire. Quelqu'un intéressé? On peut avoir de la force à tous égards. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de la force dans les biceps pour soulever des poids lourds. Une force extraordinaire. Daniel 7:7 nous dit la chose suivante. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Les cornes représentent la force aussi dans la Bible. Donc souvent, quand on parle d'une corne, c'est la force. Et donc, c'est 10 manifestations de la force de cette bête terrible et épouvantable qui était, nous est dit, extraordinairement fort. Ce verset nous parle de la séduction qui vient sur le monde. C'est un verset qui parle de cette vision que Daniel a eue pour les temps dans lesquels nous vivons maintenant. Où une séduction vient et est déjà là en fait, mais qui va encore continuer. Et ce passage nous en parle. Donc s'il y a un être spirituel ou quelque chose qui le représente, qui est extraordinairement fort, nous ne devons pas en être effrayés. Parce que quelle que soit la chose qui soit dans le monde, nous sommes bien plus grands que ça. Dieu est bien plus grand que ça. Et il peut nous donner des forces extraordinairement au-dessus. Dans Matthieu 24, 23 à 24, il nous est dit, concernant cette séduction, si les jours n'étaient pas abrégés, des jours de souffrance et de terreur, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ses élus, les jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il nous est dit ici, ils feront quoi? De grands prodiges et miracles. Grands prodiges. Mais, il nous est dit que les élus ne vont pas se laisser séduire. Quelle que soit la force extraordinaire qui se manifeste, au travers de l'antéchrist, au travers des séductions, nous avons reçu de Dieu une force extraordinairement au-delà. Et nous pouvons en bénéficier. Nous avons par exemple reçu aussi, et le Seigneur s'attend de cela de notre part, nous avons reçu la force de pardonner. Lorsque Pierre est venu à Jésus, vous pouvez lire ça dans Matthieu 18, 21, 22, quand il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Il trouvait que c'était déjà bien, 7 fois. Il dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je te dis 7 fois 70. Et quand nous pensons à la façon dont nous vivons ensemble, soit en église, soit en famille, ou entre collègues, il n'arrive pas, la plupart du temps, il n'arrive pas une journée sans qu'il y ait des petits heurts, accrochages de toutes sortes. Nous avons besoin constamment d'exercer le pardon. Constamment, constamment, constamment. Pardonner, ça ne veut pas dire seulement je n'ai pas de mauvais ressentiments. Mais à nouveau, je décide de mettre ma confiance dans l'autre personne. Je décide à nouveau lui tendre la main ou de marcher ensemble. C'est beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup de force pour pouvoir pardonner. Et nous pouvons recevoir de Dieu une force extraordinaire. Je reviens à Matthieu 5, 47. Agir de manière extraordinaire. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Que faites-vous d'extraordinaire? Je crois en tant que chrétien, nous sommes d'abord appelés, non pas à faire pour Dieu ou soulager sa conscience, ou faire des choses par devoir religieux, mais nous sommes d'abord appelés à expérimenter un repos extraordinaire. Dans un monde troublé, où les gens sont inquiets, où il y a du stress, on court après des carrières, des positions, l'argent, beaucoup de choses, on court, on court, on court, nous devons d'abord manifester le repos et la paix intérieure. D'abord, recherchez. La Bible nous le dit, efforcez-vous de trouver le repos. Elle dit, en fait, dans une même phrase, deux choses qui semblent s'opposer. D'un côté, faire des efforts, d'un autre côté, se reposer. Mais ça veut dire que ça doit être notre priorité, d'être dans le repos, d'être dans la paix intérieure. Ça doit être notre priorité. Il y a des bonnes choses à faire dans l'Église. Il y a l'évangile à prêcher, il y a le fait de servir Dieu de toutes sortes de façons, dans tous les ministères qu'on peut trouver. Mais la première des choses, c'est de faire dans le repos de Dieu. La première des choses. Ne l'oubliez jamais. Parce que toutes les autres choses vont vous fatiguer. Au bout d'un moment, vous serez fatigué. Et avec la fatigue vient aussi le découragement. J'ai lu l'article dans un magazine d'un serviteur de Dieu qui est non pas tombé, certains tombent des fois dans un péché et leur ministère s'écroule. Là, c'était tout simplement qu'il est tombé dans la dépression. Il s'était tellement donné pour le ministère, il avait mis en place quelque chose qui est gigantesque. Son église, je crois, en l'espace de 5 ans, de 8 personnes, ils sont passés à 5000. Et environ 5 ans plus tard, il était dans une profonde dépression. Son ministère s'est écroulé. Les gens se sont dispersés et il n'en reste plus rien. Il n'en reste plus rien du tout. Et donc, c'est impressionnant de voir les choses qui peuvent se produire aussi dans notre propre vie. On attend des choses, on travaille, on œuvre, et des fois, il n'en reste pas grand-chose. Alors, recommençons par le début. Tout d'abord, que faut-il faire ? Être dans un repos extraordinaire. Jésus est notre exemple. Vous le croyez ? Vous croyez que c'est notre exemple ? Regardez comme il agit. Dans Marc, au chapitre 4, ce même jour, sur le soir, verset 35, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, lui dire « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Quel bel exemple de repos, le repos de la foi. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste une histoire. Ce n'était pas pour de semblants. La barque était vraiment en train de couler. Nous croyons, nous avons cette certitude, qu'elle ne serait pas coulée entièrement. Elle était simplement secouée. L'eau pénétrait peut-être dedans, elle était peut-être secouée, mais elle n'aurait pas pu couler entièrement parce que Jésus y était. Et il avait dit « Passons de l'autre bord ». Mais il avait, malgré les circonstances, garder une attitude de repos. On ne peut pas faire plus reposer que de dormir. C'est le repos maximum. Et vous savez bien que lorsqu'on s'inquiète, des fois, on a du mal à trouver le repos. Quand on pense toutes sortes de choses, le sommeil ne vient pas. Or, nous avons besoin, bien sûr, de la force extraordinaire de Dieu, mais nous avons aussi besoin d'un bon repos. À la fois un repos de sommeil pour notre corps et un repos pour notre âme. Donc, si nous sommes sans cesse inquiets et agités, nous ne pourrons pas trouver le vrai repos. Et dans cette attitude, nous ne pourrons pas non plus entendre la voix de Dieu. Or, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, sinon nous n'aurons pas la sagesse de Dieu. Vous voyez, tout est lié. La sagesse extraordinaire de Dieu vient quand on est dans le repos. Et nous expérimentons aussi la force extraordinaire de Dieu. Dans certaines situations, même avec peu d'heures de sommeil, vous pouvez être tout de même en forme. Dieu peut pourvoir. Et dans d'autres circonstances, Dieu peut vous donner une qualité de vie, vous avez aussi un sommeil de qualité et vous êtes reposé. En tout cas, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Le repos de Dieu est ce que Dieu a créé pour nous depuis la fin du sixième jour. 6 jours pour la création du monde, il nous est dit, et le septième, Dieu se reposa. Nous sommes dans ce septième jour où Dieu se repose et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, tel il est, tel nous sommes dans le monde, à nous reposer en lui. Rappelez-vous, la malédiction, c'était « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Beaucoup de gens deviennent même riches dans ce monde à la sueur de leur front. C'est la malédiction. Ce n'est pas que la richesse est la malédiction. La façon dont ils le gagnent, c'est une façon qui est une façon marquée par la malédiction. Mais nous, nous sommes appelés à être les gestionnaires des biens de notre Père Céleste. Et ça, c'est différent. Et quand vous avez un besoin, vous demandez à votre Papa Céleste. Entrons donc dans ce repos. C'est ce que nous exhorte à faire Hébreux 3. Hébreux 3 commence à ce sujet, déjà au verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, tout le monde dit aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Un cœur endurci, c'est celui qui ne veut pas entendre. Comme on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas un cœur plus endurci que celui qui ne veut pas recevoir les paroles de Dieu. Pourtant, ce sont ces paroles qui nous aideraient le plus souvent. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Ils sont sortis d'Égypte de l'esclavage du diable et du monde, Mais ils avaient leur regard constamment tourné encore vers l'Égypte. Et ils se rappelaient que c'était si bien là-bas, et tous les avantages qu'ils y avaient. Nous devons apprendre à ne plus regarder en arrière. Comme la femme de Lot, ils ont été sauvés de la destruction de cette ville, miraculeusement par des anges qui sont venus les chercher. Ils ont pris par la main pour les sortir de la ville. On leur a dit, ne regarde pas en arrière. La regarder en arrière, et changer en statue de sel, il nous a dit, et elle était paralysée, c'était terminé. Contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Rappelez-vous, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Vous n'avez rien besoin de faire pour être plus aimé de lui, et tout ce que vous pourrez faire ne va pas vous faire moins aimé de lui. Mais vous avez une façon dont vous pouvez lui être agréable. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Il y a une condition pour entrer dans le repos, de faire ce que Dieu attend de nous. Le repos, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Cette promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ce n'est pas fini. On peut encore en bénéficier maintenant. Qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette parole de Dieu est annoncée à tout le monde. Tous ceux qui sont ici, ceux qui entendront la cassette ou regarderont, peuvent entendre la même parole de Dieu. Mais certains vont en tirer avantage et d'autres non. Certains vont avoir foi en Dieu, vont se dire, oui, c'est vrai, la parole de Dieu peut changer ma vie. Oui, c'est vrai, je peux être aidé par ce que Dieu dit dans sa parole. Et d'autres vont dire, ça c'est des mots, ça ne va pas changer ma vie. Ainsi est la différence entre les deux attitudes. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, vous pouvez dire combien ? Est-ce qu'ils sont déjà désignés à l'avance? C'est autant qu'ils voudront. C'est comme l'annonce du salut. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est pas seulement quelques-uns qui ont été prédestinés. Il nous est dit qu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Et quand je dis repos de sabbat, le sabbat était quelque chose de vraiment saint. C'était vraiment quelque chose de sacré, de spécial. On ne pouvait pas y toucher. Rappelez-vous, des gens pouvaient être mis à mort pour avoir fait certaines choses le jour du sabbat. Tellement c'était important, cette alliance du sabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc, et justement l'autre traduction dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu nous est dit que le repos vient du fait qu'on croit que la parole de Dieu marche à notre égard. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ne changeons pas tout le temps nos déclarations. Ne disons pas « Je crois que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. » L'instant d'après, « Je croyais avoir été guéri, je vois qu'il n'en est rien. » Et puis de nouveau, « Je crois que Dieu va me guérir. » Et ensuite, de nouveau, « Eh bien, je vois que la maladie est toujours là. » Et ainsi, on change tout le temps. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous avons besoin d'être demeurés fermes dans les choses que nous croyons et que nous voyons dans la parole de Dieu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On ne peut pas dire, Seigneur, tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de traverser. Pour toi, c'est facile. Tu es là-haut dans le ciel, tout va bien pour toi. On ne peut pas lui dire ça parce qu'il veut dire, mais moi, je suis venu. Et j'ai pris votre condition. Et j'ai traversé tout ce que vous devez traverser. Et bien pire que ce que chacun d'entre nous peut jamais expérimenter, il a eu, à un moment donné, il a pris tous les péchés, toutes les souffrances, toutes les maladies du monde entier sur lui en un instant. Ça, c'est notre foi. C'est ce que nous croyons selon la Bible. Alors, si quelqu'un dit, si tu savais ce que je dois subir, ce que je dois traverser, tu ne parlerais pas comme ça. On peut lui dire, si tu connaissais Jésus comme je le connais, tu ne parlerais pas comme ça. C'est-à-dire, tu ne connais pas encore assez bien Jésus. Tu ne sais pas qui il est réellement. Tu ne sais pas à quel point il comprend exactement ce que tu traverses. Et à quel point il peut t'aider. Il peut, il nous a dit ici. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il peut comprendre quelles sont nos faiblesses. Il ne veut pas dire qu'il prend les faiblesses pour des excuses. Ça, c'est différent. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le verset qu'on connaît bien et qu'on utilise souvent, mais qu'il reprenne vie ce matin, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Vous pouvez vous approcher de lui. C'était la partie « Agir d'une manière extraordinaire ». Et qu'est-ce que nous avons vu dans cette partie? Ce que Dieu attend de nous pour agir de manière extraordinaire, c'est rentrer d'abord dans un repos extraordinaire. Sinon, votre manière d'agir ne sera jamais extraordinaire. Vous comprenez? Ça sera peut-être, vous allez faire beaucoup de choses, mais vous n'allez pas les faire de manière extraordinaire. Vous les ferez comme n'importe qui. Je peux travailler dans le ministère dur, me fatiguer, me ruiner la santé, aller presque jusqu'à l'extrémité de mourir. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts prématurément en se tuant à la tâche, littéralement. Ils n'ont fait rien d'autre de différent que ce que fait l'homme d'entreprise, le chef d'entreprise, qui peut-être commence avec petite entreprise familiale, mais à force de travailler en soirée, les week-ends, et se donner entièrement, il développe son entreprise, ça devient quelque chose d'important, et il aura bien travaillé, les gens vont admirer le résultat. Mais il n'aura pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il aura simplement mis toute son énergie, ses capacités. Et de la même façon, dans le royaume de Dieu, on peut faire la même chose. Mais ça ne sera pas extraordinaire. Vous comprenez? L'extraordinaire doit venir d'ailleurs. D'ailleurs. Ça doit venir du domaine surnaturel. Et quand on voit que ça vient d'ailleurs, tout le monde doit dire, eh ben, ça c'est l'évidence, c'est Dieu qui l'a fait. Jamais il aurait pu faire ça. Agir de manière extraordinaire. Quand ils sont venus vers Jésus, ils lui ont posé cette question. Regardez avec moi dans Jean 6. Question qui intéresse tout le monde. Même ceux qui croient que ça ne les intéresse pas. Tout le monde et le monde entier. Jean 6, 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu? Avec quoi il sera content de nous? C'est le résumé de la religion. La religion, c'est toujours trouver des moyens de plaire à Dieu. Qu'est-ce que je dois encore faire? Les païens dans la jungle, on peut imaginer, ils offrent des sacrifices aux idoles, aux mauvais esprits, pour les calmer, pour qu'ils ne leur fassent pas de mal. Et les gens religieux, ils offrent les sacrifices à des divinités, ou même à un dieu, pour avoir ces bonnes grâces. C'est la même chose. Alors ils disent, que devons-nous faire? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, c'est quelque chose de totalement différent. C'est nouveau. Vous comprenez que c'est nouveau? C'est un concept nouveau. Quand on me dit, qu'est-ce que je dois faire? Et l'autre te répond, tu dois croire. Ça ne satisfait pas notre nature charnelle. On a envie de faire quelque chose, de gagner notre guérison, gagner le paradis ou gagner d'autres choses. Mais il nous est dit, d'abord, ça commence par le repos de la foi. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils reviennent à la charge, verset 30. Quel miracle fais-tu donc? De nouveau faire, voyez? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Quel miracle fais-tu donc? Et puis il donne un exemple par rapport à la manne. Et Jésus dit, je suis le vrai pain du ciel. Je suis le vrai pain du ciel. Il faut croire en moi. Et cette foi en moi va vous permettre de rentrer dans une dimension nouvelle, surnaturelle, du royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, il y a des miracles qui se produisent. Des miracles. Et non seulement il y a des miracles, mais il y a encore des miracles extraordinaires. Dans Acte 19, 11, il nous est dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Beaucoup de gens se disent, je suis déjà content d'avoir des miracles ordinaires. En réalité, les miracles sont toujours extraordinaires. Mais c'est vrai que certains miracles sont plus spectaculaires que d'autres. Si vous avez quelqu'un, il lui manque un bras et que le bras il repousse, je crois que ça sera extraordinaire. Par contre, si quelqu'un est guéri, mais qu'on ne voit pas son apparence physique changer, si c'est quelque chose d'intérieur, c'est un miracle. Mais ça semble moins extraordinaire. Vous êtes d'accord? Et vous pourrez trouver d'autres exemples de ce style. Donc, Dieu veut nous utiliser de façon extraordinaire. Il veut faire au travers de nous des miracles extraordinaires. Croyez que vous êtes des faiseurs de miracles. Je vais peut-être choquer certains, peut-être qu'ils nous entendront, mais nous croyons que nous serons des faiseurs de miracles. C'est vrai qu'il est écrit ici, Dieu faisait des miracles extraordinaires, mais c'est vrai aussi qu'il est dit, il les faisait par les mains de Paul. Nous ne croyons pas être des guérisseurs. Nous ne faisons pas de médecine, nous ne guérissons pas les gens, mais en réalité, nous voulons laisser Dieu agir au travers de nous. Et dans ce sens, il faut quand même avoir un minimum de confiance que Dieu va nous utiliser. Sinon, nous ne poserons pas nos mains. Et nous n'allons pas parler aux gens. Et nous allons simplement dire, Seigneur, bénis-le à distance, et rien ne se produira. Mais il nous faut aussi ce contact. Il faut que la personne, à un moment donné, ait entendu quelque chose de la parole de Dieu. Ou qu'il y ait eu un contact, qu'on ait pu prier avec elle. Ou imposer les mains. Parce qu'il se peut que de ce que nous avons reçu de l'Esprit de Dieu, cette chose puisse se communiquer au corps malade ou à l'âme malade. C'est possible. Il nous faut le faire. J'aimerais vous donner une petite illustration par rapport au mot extraordinaire. Il y a quelques années, nous étions arrivés à l'aéroport de Nice et des amis étaient venus nous chercher en voiture. Alors, ils nous ont installés à l'arrière et donc le chauffeur a dit, je vais avancer mon siège. Comme ça, tu auras plus de place pour tes jambes. Parce que les hommes passent pour être plus grands, avoir de longues jambes. Donc, des fois, c'est un petit peu serré dans les voitures. Alors, il dit, je vais avancer le siège, comme ça, tu pourras être mieux assis. J'ai dit, même, ça va très bien. J'ai dit, je suis un Français moyen. Parce que ma taille, c'est 1m75 et c'est la moyenne à peu près dans notre pays. Il m'a regardé d'une façon très solennelle. Il m'a regardé et dit, non, vous n'êtes pas un Français moyen. Vous êtes un Français extraordinaire. Et je crois que c'était vraiment une parole de Dieu et que je vais vous donner aussi ce matin pour que nous réalisions. C'était pas pour me flatter, mais c'est parce qu'il reconnaît en moi la présence de Dieu et ce que nous laissons Dieu faire au travers de notre vie. Et vous aussi, Vous êtes des Français extraordinaires. Ou les gens qui nous regardent à l'étranger, vous êtes des gens extraordinaires si vous le voulez. Vous pouvez laisser Dieu vous utiliser et il peut faire des miracles extraordinaires par vos mains. Vous n'aimeriez pas ça? Que lorsque vous parlez, il y a des démons qui sortent et qui reconnaissent de loin, ou que des gens soient guéris, ou que des vies soient transformées, croyez-le. Qui mieux que vous peut être qualifié pour se laisser employer par Dieu? Qui? Les autres n'ont rien de plus que vous. Ceux qui nous précèdent, ceux qui font plus, soi-disant, de choses dans le royaume de Dieu, peut-être ils ont un peu d'avance sur nous. Ou peut-être ils ont tout simplement, ils se laissent employer par Dieu depuis plus longtemps. Des fois, nous admirons des gens qui sont dans le ministère, dans des ministères importants, mais il y en a beaucoup, ils ont 60, 70, 80 ans. Nous ne devons pas être gênés de commencer au début, mais croyez que nous pouvons être employés par Dieu d'une façon extraordinaire. Et lorsque vous êtes employés par Dieu d'une façon extraordinaire, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons voir un verset encore dans Daniel 2:31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Je crois que lorsque nous faisons tout ce que nous avons maintenant entendu sur l'action de Dieu dans notre vie, que va-t-il se passer? Et vous serez splendide. Vous aurez une splendeur extraordinaire. Il y a quelque chose qui peut jeter la confusion chez les gens concernant Jésus. C'est qu'il nous dit, il nous est dit dans Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est un homme ordinaire d'apparence. Mais en même temps, l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie, cette façon dont il obéissait, exerçait une fascination chez les gens qui s'approchaient de lui. Vous voyez, même ceux qui voulaient l'arrêter ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme lui. Ils étaient subjugués. Et je crois que dans le monde, il y a aussi toutes sortes de canons de beauté. Il y a Monsieur Univers et puis Miss Monde et tout le reste et tous ces concours de beauté et d'autres choses où on fait des critères de sélection. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose que Dieu peut faire qui va faire rayonner littéralement de la gloire de Dieu les enfants de Dieu. Il va faire que les gens seront sensibles. J'aime pas tellement utiliser le mot charme, parce que le mot charme, ça vient de quelque chose d'ancien qui parle des enchanteurs qui lançaient des charmes. Alors vous étiez enchanté. Enchanté, ça voulait dire on avait jeté un sort sur vous et vous étiez subjugué. C'est ainsi que on parle par exemple des filtres d'amour ou des choses comme ça, que des potions de toutes sortes où des gens étaient sous le charme. Mais donc j'aimerais pas tellement qu'on le voit de ce côté, mais je suis persuadé que nous pouvons aussi avoir quelque chose de rayonnant de la part de Dieu. Une splendeur extraordinaire de la beauté de notre âme où tout le fruit de l'esprit se développe et vous êtes remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de fidélité, de maîtrise de soi. Vous ne croyez pas qu'une personne qui manifeste tous ces aspects est une personne qui serait agréable, que beaucoup de gens seraient attirés par une personne comme ça et qu'on aimerait être avec elle? Et je crois que quelque chose de la gloire de Dieu rayonnerait certainement. Alors maintenant, il y a encore, si vous êtes dans toute cette dynamique de l'esprit qui fait de vous une personne extraordinaire, je suis désolé de devoir encore vous apporter une petite note négative, c'est que il y aura forcément aussi une opposition extraordinaire. Une opposition extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, vous dérangez extraordinairement le diable. Il n'aime pas ça. Donc il va s'y opposer. Mais Contrairement à certains qui ont pensé, si je laisse le diable tranquille, il me laissera tranquille. Il n'y a jamais eu une espèce de contrat entre lui et nous, de pacte de non-agression. Il est le destructeur. Il est celui qui voudra de toute façon vous dévorer, il veut de toute façon vous dérober et vous tuer, il veut vous détruire. Donc, ça n'existe pas. Alors, vous feriez mieux quand même d'être dans le centre de la volonté de Dieu pour votre vie. Il désire que vous soyez extraordinaire, mais ne soyez pas surpris. Même si vous êtes obéissant, même si vous commencez à expérimenter la puissance de Dieu, davantage que jamais, il y a une opposition extraordinaire. Et ce ne serait pas vous rendre service de ne pas vous dire ça ce matin. Alors, dans Daniel 3, 22, il nous est dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ces hommes hébreux qui ne voulaient pas adorer l'idole du roi, eh bien, on les a jetés dans une fournaise qui était extraordinairement chauffée. On voulait être sûr qu'ils soient bien brûlés. Comme si ça n'aurait pas suffi de les jeter dans une fournaise, il fallait la chauffer extraordinairement. Mais ce qui est encourageant pour nous, c'est que l'opposition était extraordinaire, mais ce sont les hommes qui leur voulaient du mal, qui ont été tués par la flamme, parce qu'il est dit, c'est ceux qui les ont jetés dedans, qui sont morts tellement la chaleur était intense, et eux étaient à l'intérieur, et ça ne leur a rien fait. Il nous a dit, même pas leurs vêtements n'avaient l'odeur de la fumée. Même pas ça. Et je vais à vous le rappeler, ce n'est pas ici un livre de fables, c'est la parole de Dieu, ça s'est vraiment fait. Imaginez, il y a quelques milliers d'années, trois hommes ont été jetés dans une fournaise. Aucun vêtement n'a été abîmé. Ils étaient simplement, leurs liens se sont enlevés. Ça a été brûlé. Parce qu'ils les avaient liés. Les liens se sont enlevés, mais eux, ils ont pu se promener au milieu du feu. Ils ont promené au milieu du feu, et ce n'était pas juste une astuce de marcher sur quelques braises pendant quelques secondes. C'est plus que ça. Parce que ça, il faut aussi dire un mot, il y a aussi des signes et des prodiges mensongers qui peuvent exister. Mais cela ne nous impressionne pas. Et donc, il y a une opposition extraordinaire. J'aimerais vous lire aussi quelques extraits de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Même en suivant Dieu, même en lui obéissant, il y avait des souffrances des fois. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Béni soit Dieu, 2 Corinthiens 1, 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Si vous suivez Dieu et que vous êtes dans une situation où il y a une opposition extraordinaire, au milieu de cette opposition, il y a une délivrance. Et le fait que vous vous en soyez sorti, Dieu vous rend déjà capable à nouveau d'être des instruments de délivrance pour d'autres. Ne perdez pas ça de vue. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous êtes en train de vivre, déjà d'autres seront dans la même situation et vous pourrez en aider d'autres. Vous n'êtes pas seul dans votre situation. Vous ne pouvez pas dire « personne au monde ne vit ce que je vis ». Si, il y en a beaucoup. Et peut-être beaucoup qui sont dans une situation pire que vous pourrez aider. Donc voilà, il trouve la consolation. Il dit « si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise » par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Oui, il y en a des fois des souffrances, et il faut de la patience. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. Pas juste un peu accablés. Vous voyez, ça fait penser à extraordinairement chauffer la flamme. Eh bien, ici, c'est excessivement accablé. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Il n'était pas dans une position de foi à ce moment-là. Il avait abandonné tout espoir. Hein, c'est vrai, hein? Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même dans vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ce qui veut dire que au moment où eux avaient abandonné tout courage, d'autres ont prié et d'autres les ont soutenus. Donc, même s'il y a une opposition extraordinaire, vous n'êtes pas seul. Et la conclusion, c'est, je voudrais dire, que la victoire est à nous. Romains 8 nous dit que la victoire nous appartient, que nous sommes même plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et on va lire ce passage aussi. Parce que des fois, on peut avoir de l'opposition de toutes sortes. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand quelque chose veut venir contre vous, vous dites pas merci Seigneur pour cette épreuve. C'est pas ce que vous dites. Vous dites, mais quelle que soit l'épreuve qui est devant moi, cette chose ne pourra pas m'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que je fasse. Cette chose ne pourra pas m'empêcher de recevoir ce que Dieu veut me donner. Et cette chose ne pourra pas m'empêcher de vivre dans la présence de Dieu aujourd'hui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-le avec moi. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Disons-le ensemble. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Dites-le à votre voisin. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ton Seigneur. Disons encore une fois, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur.